pointe, David Torchala.
Dans l'heure de pointe, le magazine de société de Radio Présence. Bienvenue Delphine Pereira.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour David.
Vous êtes journaliste pour la Nouvelle République des Pyrénées, la Dépêche du Midi. Vous êtes fidèle à notre émission.
Oui, une habituée, ça y est. J'ai trouvé mes marques, je reste là.
Ah, mais ça c'est une très bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, Delphine, nous allons prendre de la hauteur, nous allons découvrir un lieu magique, majestueux, au sommet des Pyrénées, accessible à tous en téléphérique. Le Pic du Midi fait partie des grands sites de Midi-Pyrénées à voir absolument si vous passez dans notre belle région.
Tout à fait.
Et quoi de mieux pour en parler que d'avoir avec nous Daniel Soukaz des Soukaz. Bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes directeur général du Pic du Midi. Alors il a neigé là récemment. Tout va bien au Pic. Vous n'avez pas eu de mal à descendre nous voir?
Non, pas du tout. J'étais là-haut hier matin et il était tombé plus d'un mètre de neige et nos équipes des neiges. Et pour accueillir les clients sur des terrasses déneigées, et c'était fabuleux. Après, on avait de la neige sur les pentes aussi pour skier. Bon, malheureusement, il y a eu une avalanche hier matin et le PGHM a dû venir parce qu'il y a quand même des risques élevés suite à ces grosses chutes, mais enfin l'hiver est là, je dirais.
Ah ben si enfin, en tout cas, voilà un bel observatoire pour regarder l'hiver. Alors ouvert en 2000 au grand public, le Pic du Midi a été classé en 2003 comme site naturel national au titre de la beauté de son paysage. En 2013, il a été labellisé réserve internationale de ciel étoilé, la première de France.
Et d'Europe.
D'Europe, merci de corriger. Et ce lieu magique, depuis plus de 140 ans, chercheurs et techniciens de l'espace observent, décryptent et photographient le ciel et toutes ces planètes jusqu'aux plus lointaines galaxies. Ça fait quand même rêver, vraiment, vous qui êtes directeur, Daniel Soukaz des Soukaz, j'ai envie de dire que vous avez un peu la tête dans le ciel, la tête dans les étoiles tous les jours, mais peut-être que pour gérer un lieu comme ça, il faut quand même avoir les deux pieds sur terre aussi.
On a les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles constamment, on ne s'en lasse pas. Alors, on a un panorama unique, exceptionnel, et que ce soit, enfin, qui est tout à fait différent en fonction des saisons, en fonction de la luminosité, en fonction du temps, des heures. Enfin, c'est inimaginable ce qu'on peut régaler les yeux sur chaque visite.
Bien justement, on va commencer peut-être par le volet touristique, celui qui nous intéresse ce jour J et peut-être pour ce week-end, puisqu'il y a de la neige, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à faire. Vous avez des animations dans tous les coins.
Mais on a des animations. Déjà, rien que le trajet en téléphérique est une animation. Hein. Je veux dire, démarrer à 1800 mètres et monter quasiment à 3000, c'est 2877. Mais on est sur deux trajets en téléphérique qui sont quand même assez exceptionnels, avec le second tronçon où on aperçoit depuis le Taoulé ce vaisseau des étoiles, où on traverse deux vallées, on a plus de 350 mètres sous les pieds, et c'est quand même assez impressionnant. Donc c'est un beau manège déjà, une belle expérience d'entrée.
Peut-être, il faut continuer après à répondre aux questions de Delphine Pereira. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans le Gers, dans le Béarn et dans les Hautes-Pyrénées, alors eux, ils connaissent bien, mais où est-ce qu'on se situe en fait? Parce qu'on parle de téléphérique, faites-nous un petit peu de géographie.
Alors la géographie, on est plein centre, hein. C'est les Hautes-Pyrénées bien sûr. Il y a plusieurs pics du Midi, mais il y en a un seul qui est construit, c'est le nôtre, hein, on en parlera tout à l'heure, mais c'est le plus vieil observatoire de montagne au monde, visible par son antenne et par son gros télescope depuis la plaine. Hein, on est sur Pau, quand on est sur l'autoroute, on l'aperçoit, entre Toulouse, on l'aperçoit. Je veux dire, on a tous nos villages et toutes nos villes qui ont la rue du Pic du Midi.
Ah oui, ça c'est vrai.
qui donne plein fer à midi sur notre site. Et donc, on est sur un pic un peu particulier parce qu'il est en retrait par rapport à la chaîne. Hein, c'est sa particularité. Ce qui fait qu'en définitive, on n'est pas touché par les entrées nuageuses de l'Espagne. Régulièrement, on a la chaîne prise et nous, on est en retrait et on est toujours au soleil. Et toutes les influences qui arrivent de l'océan restent basses et on est aussi la tête au-dessus des nuages. Donc, on a une situation qui a fait qu'en 1878, Nansouty-Vosloo personnes sont venues s'installer là-haut, non pas au départ pour l'astronomie, mais pour la météo. Et ce site s'est construit parce qu'il y a, un ciel fabuleux, et un ciel qui est protégé, vous l'avez dit tout à l'heure, mais que ce soit en jour ou en nuit, tout est magique.
C'est juste à côté de Bagnères de Bigorre, au-dessus de Bagnères de
Alors,
Bigorre.
Alors, physiquement, c'est le départ du téléphérique, c'est sur la Mongie, mm-hmm. la station de ski. Donc, c'est Bagnères, Campan, et on accède à la station de la Mongie. Deux tronçons de téléphérique. C'est au pied du col du Tourmalet. Et on est juste au-dessus de la station du Grand Tourmalet. Ensuite, l'accès l'hiver, c'est obligatoirement par la Mongie. Et l'accès été, de Lourdes, c'est plus facile du côté de Barèges. Mais là, il faut attendre la fonte des neiges et l'ouverture du col du Tourmalet. Mais on est vraiment dans les Pyrénées centrales.
Et donc, comme demandait Delphine, c'est un lieu touristique, c'est un lieu qui se donne à voir, que l'on visite. Donc, on a parlé, il faut gravir et monter par le téléphérique. Mais une fois qu'on arrive en haut, décrivez-nous, qu'est-ce qu'on voit, si on arrive à décrire.
Mais on arrive à décrire, oui, parce que c'est vrai qu'on a déjà on accède en 20 minutes à la haute montagne, hein, on se retrouve à 3000 mètres d'altitude, alors que bon, nos pics pyrénéens à 3000, pour y accéder, je pense que le plus court c'est peut-être le Néouviel, et il faut quand même bien 3 heures depuis le lac d'Aumar. Donc je veux dire, c'est un accès très facile à la haute montagne. Et puis quand on arrive, on est absorbé par ce panorama. On a en face, puisqu'on est en retrait, je l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 300 km de chaîne, d'est en ouest. Tous les pics, les 3000, vous apparaissent en face, quasiment en hauteur. Vous avez ce mont perdu et ce cirque Gavarni, mais juste avant, juste devant, vous avez presque l'impression d'aller toucher le Nonviel, vous voyez le Vignemale qui est le plus haut sur le côté français. On aperçoit l'Aneto. Enfin, franchement, d'est en ouest, c'est quand même fabuleux. Et quand on y passe la nuit, on vous dit même que on arrive à voir le halo du phare de Biarritz quand on est sur le côté ouest. Donc on est dans quelque chose de magique sur la partie montagne, et tous les panoramas sont beaux en toute saison, même si personnellement je préfère quand même l'hiver où les tracés de nos pics sont quand même plus proches et beaucoup mieux dessinés pour moi. Et après sur le côté plaine, on aperçoit toute la plaine, c'est-à-dire que quand il fait beau, on aperçoit même les fumées des deux cheminées de Golfech en fond, qui Golfech c'est à côté,
c'est
d'Agen.
C'est incroyable.
on aperçoit bien sûr toute la plaine, de Bagnères, Lannemezan, Montrégeau, Saint-Gaudens, on voit les fumées de l'usine papeterie de Saint-Gaudens, le château de Montvauzin ressort très bien aussi, et puis quand on passe à la nuit, malheureusement, avant les extinctions actuelles, mais on avait le halo lumineux de Toulouse qui s'aperçoit, et de l'autre côté de la chaîne, même le halo lumineux de Saragosse et de Barcelone qui ressortait au-dessus de la chaîne à une époque.
C'est quand même fou de se dire qu'il est accessible aisément de pouvoir monter jusque-là, mais ça nécessite quand même un peu de pédagogie, parce que j'imagine, on arrive comme ça seul, on passe peut-être à côté des trésors à voir.
Mais la pédagogie, dans le positionnement, là on est sur du commerce, mais dans le positionnement market, c'est l'accès à la haute montagne et un panorama unique exceptionnel. Et c'est là où on a voulu enrichir cette visite. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un observatoire, il faut être très clair, un observatoire qui a 150 ans, et on a un service médiation, donc même sur les terrasses, on partage, on a un médiateur qui va commenter le panorama, on a un médiateur qui va vous conter l'histoire de la construction du pic, on a un médiateur qui sera derrière un coronographe pour vous montrer le soleil ou la surface du soleil. Et à l'intérieur, on a développé en 2018 un espace expérience où on retrace très ludiquement sur de belles tables les 5 thématiques scientifiques travaillées sur le site depuis l'origine. On a un espace sur la réserve de ciel étoilé, pour expliquer effectivement, on pourra y revenir tout à l'heure, mais on fait la différence entre un ciel en ville où on n'aperçoit quasiment pas d'étoiles et le pic où on voit la Voie lactée.
Mais prenons le temps quand même d'en parler. Oui, expliquez-nous vraiment cette différence. Donc une réserve étoilée...
La réserve ciel étoilé, elle avait démarré en 2009. C'était des scientifiques... Il n'y avait quasiment pas de réserve à ciel étoilé. On avait de plus en plus d'éclairage public sur les villes. Et l'objectif, ça a été de lutter contre cet éclairage public qui gênait les astronomes, mais qui néanmoins polluait aussi le ciel pour les habitants, puisque quand on est en ville, on lève les yeux, on n'aperçoit plus une étoile. Et donc c'était la reconquête de ce ciel noir et la facilité pour eux de travailler sur leur instrument, que ce soit des pros ou des amateurs. Et en 2011, ils n'avaient pas avancé, donc on avait fait la conférence de presse sur le lancement de par l'association Pyrène qui était portée par des astronomes du PIC, et c'était François Colla le président, et en 2011 ils n'avaient pas avancé, et c'est un professeur de l'université de Pau qui était venu me voir et qui me dit j'ai quelqu'un chez moi qui est féru d'astro, qui vient d'obtenir son master, qui est major, qui est brillant, et il aimerait travailler sur la réserve de ciel étoilé. Donc au départ, je me suis dit, bon, c'est pas peut-être le rôle de nous, nous on fait du tourisme, on est des touristes, nous. Et il y a les scientifiques à côté, c'est peut-être plus à eux. Puis je m'étais retourné vers Pyrénées Tourisme Environnement. Et puis au dernier moment, c'est le PIC qui a recruté Nicolas Bourgeois, qui est aujourd'hui mon adjoint et qui bosse à 100% quasiment sur le dossier UNESCO. Et donc il a fait sa thèse sur la réserve de ciel étoilé. En 2013, on a obtenu la labellisation Réserve internationale de ciel étoilé. C'était la première en France, la première en Europe. Et avec trois objectifs. Le premier, c'était la conversion de l'éclairage public. Et on a beaucoup travaillé avec le syndicat d'énergie qui a énormément travaillé sur ces éléments-là de conversion d'éclairage. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec l'extinction, on en parle un peu moins, mais c'était quand même très innovant à l'époque. Le second point, c'était d'écrire une réglementation sur l'éclairage public, parce que ça n'existait pas. Donc ça a été de voir avec les éclairagistes qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de luminaires et d'ampoules de moins polluants. Et le troisième point qu'on n'avait pas trop travaillé jusqu'à il y a peu de temps, c'était la mise en tourisme autour de cette réserve de ciel étoilé. Les Canadiens l'avaient très très bien fait. La première réserve a été créée au Mont Mégantic. Ils avaient énormément bossé sur la mise en tourisme autour de la réserve de ciel étoilé. Nous, on l'a pas trop porté. Donc on était trois gestionnaires jusqu'à il y a quelques temps. Il y avait le Parc National, le syndicat département de l'énergie et le syndicat du PIC avec la régie. Et là, on vient de rajouter le département des Hautes-Pyrénées pour la mise en tourisme autour de cette réserve de ciel étoilé.
C'est quand même cette mission qui est à la fois de travailler pour le bien commun et puis aussi pour le plaisir des yeux, finalement.
Pour le plaisir des yeux.
Donc c'est aussi quand la science, l'intérêt public rejoint aussi le tourisme.
Ouais, et il faut dire que les communes ont vraiment joué le jeu. On a une station de la Mongie qui est complètement convertie. Avec un smartphone, on peut baisser l'intensité de l'éclairage et ses reflets sur la neige. On n'a plus sur le sud dans l'eau lumineuse, puisqu'on a le parc, mais on avait la Mongie, on avait encore quelques stations. Peyragudes aussi a converti. On se retrouve aujourd'hui avec même toutes les communes. C'est des millions d'euros qui ont été investis sur la conversion de l'éclairage public. Alors après, c'est vrai que le prix de l'énergie a fait qu'aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle phase où il y a ces extinctions, mais bon, c'est très complémentaire, parce que la plupart éteignent aux alentours des minuit, mais de toute façon, même entre 18h ou 18h30, quand la nuit arrive et l'extinction totale, il y a quand même ces éclairages qui ont été convertis et c'est quand même super pour un territoire. Et c'est quand même, on n'a pas labellisé le PIC, on a labellisé un territoire, et c'est quand même 271 communes qui ont été labellisées. Les communes ont joué vraiment le jeu, et quand on tire une ligne lourde, bannière, Lannemezan, tout ce qui est au sud fait partie de cette réserve internationale du ciel étoilé.
Donc le Pic du Midi, c'est aussi pour les sportifs comme vous, David. Du ski,
les riders.
C'est ça, les moi, riders. Hein. Il y a du ski, il y a de la descente en VTT, une cascade de glace. Enfin, il y a plein de choses pour ceux qui sont férus de sensations fortes.
Oui. On va commencer par le ski. Parce que le ski, on a un site fabuleux et merveilleux de freeride. On est à l'image de l'aiguille du Midi et de la Grave dans le 05 où on est sur un ski de haute montagne. C'est-à-dire que le skieur, quand il vient chez nous, déjà, ce sont tous des initiés, il faut être très clair. On se retrouve dans l'ambiance un peu qu'on connaît à Chamonix, au Grand Monté ou à l'aiguille du Midi. Et ce sont des pentes qui sont ni sécurisées, ni damées. encore moins d'Amiens, et sur lequel le skieur s'en va sous sa propre responsabilité.
À ses risques et périls,
mais c'est le freeride, c'est-à-dire que c'est l'adrénaline qui monte, et on a des pentes tellement fabuleuses que tout le tour du pic a été skié, quoi. Tout le tour. Il y a le couloir noir qu'on appelle, alors couloir des poubelles, c'est pas très beau, mais qui est skié régulièrement. Il y a 15 ans, 20 ans, quand il y avait deux skieurs qui passaient sur le couloir noir dans l'hiver, c'était énorme. Aujourd'hui, si on a de bonnes conditions, il y a des journées, c'est entre 20 et 30 skieurs qui skient le couloir noir. Après, il y a la face sud qui est quand même plus simple, c'est ce qu'on appelle la classique. Mais on a les frères de Leroux qui sont venus sur le côté est. Moi, je savais même pas que ça pouvait se skier, quoi. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur un site merveilleux en termes de freeride.
Et en même temps, pour Delphine, vous qui êtes plutôt de l'été, on peut aussi faire du VTT.
Exactement. Le sport préféré, enfin le mien toujours, je vous le dis, c'est d'aller sur voir le panorama, sur cette avancée merveilleuse.
Ah, la terrasse. Voilà le sport préféré de Delphine.
Ah, sur le ponton.
Voilà, sur le ponton, le ponton dans le vide, ouais. Et tout va bien.
Ouais. Mais sur le VTT, on a du VTT de descente, donc on a une benne le matin, puisqu'on ne se pénalise pas trop, on ne peut pas mettre énormément de vélo dans la cabine, donc une benne le matin, une benne en fin de journée. On a peu de monde, parce que c'est quand même, c'est pas un sport famille, hein. On a une première partie de descente qui est complexe, mais on a de plus en plus de VTTistes et aussi de gravel qui montent, qui font le Tourmalet, et puis qui continuent leur périple jusqu'à monter, jusqu'à l'hôtel Ride-et-Laquais. Et qui accroche le vélo et qui finit à pied pour monter sur le pic.
Il y en a pour tous les goûts, il y a même une cascade de glace. Qu'est-ce que c'est ?
Il y a une cascade de glace, on l'a un peu créée, on l'a forcée, on est plein nord, on y rajoute quand même un peu d'eau, hein, qui repart la nature. Hein. Mais on a voulu marquer le site, il y avait le ski, il y avait le VTT, et on est dans les Pyrénées, où effectivement, on est à Gavarnie, on fait de la cascade de glace, et au pic, c'est un produit image, c'est-à-dire que c'est pas ouvert au grand public, ce sont les guides qui accompagnent, c'est plutôt une initiation à la cascade de glace, mais c'est très prisé, et les guides bossent fort bien, et c'est intéressant pour nous, parce qu'en termes d'image, on se raccroche au pyrénéisme, enfin c'est quand même fort sympa.
Au pic du Midi, il y en a pour tous les goûts, voilà un lieu qui est incroyable. Nous sommes en compagnie de Daniel Soukaz des Soukaz, qui est directeur général du pic du Midi. Avec vous, dans une deuxième partie, ben, nous allons quand même parler de cette aventure humaine. Il y a quand même eu les pionniers du pic du Midi. Restez avec nous, on en parle dans quelques instants.
L'heure de pointe, David Torchala.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'heure de pointe où nous prenons de la hauteur. Delphine Pereira, vous êtes toujours avec nous.
77 mètres,
bien retenu. Voilà. Exact.
Nous dit Daniel Soukaz des Soukaz, qui est directeur général du pic du Midi de Bigorre. Voilà, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, des pics du Midi, il y en a beaucoup, mais le pic du Midi des Pyrénées, dans le centre des Pyrénées, c'est ce pic du Midi qui est assez incroyable. C'est à la fois l'alliance touristique d'un belvédère, d'un panorama, d'un toit des Pyrénées majestueux, mais aussi la rencontre de chercheurs, de scientifiques, d'astronomes, un lieu d'observation du ciel et de la terre. Il a fallu être fou pour, à l'époque, créer là un centre d'études, un centre de recherche. Daniel Soukaz et Soukaz.
Oui, ils étaient fous. Mais on est toujours aussi fous.
C'était une station météo à la base.
Alors, ça n'a pas démarré au pic, en définitive. Ça a démarré au. L'histoire, elle a commencé dans ces grandes années. C'était 1850, station thermale Bagnères de Bigorre, station thermale de Barèges. On avait la haute société qui était là, des érudits qui travaillaient sur la botanique, sur la météo, et qui commençaient aussi sur l'astro. Il y a eu une première hôtellerie à Sancourt. C'était 1851, et on appelle ça le premier observatoire, mais c'était plutôt une hôtellerie où cette clientèle-là montait facilement, parce que c'était un 3000 quand même, enfin c'était au pied d'un 3000, et c'était quand même accessible. Et puis, au fur et à mesure, que le temps a passé, on a eu nos ancêtres du Pic, Vossena et Nansouty, un ingénieur et un général, qui s'étaient engagés à faire des relevés de température. Hein, et donc, un relevé aux alentours des midi tous les jours, et qui accédait depuis Sancourt, par n'importe quelle saison et n'importe quel temps, au Pic. Et puis, bon, ils ont failli être emportés par une avalanche à Sancourt. Ils ont mis quasiment 2 jours pour redescendre en vallée. Et ils se sont dit, il faut qu'on monte sur le Pic. Donc, ce sont eux les premiers qui sont montés, poser les premières pierres de notre édifice. Hein, un édifice qui fait aujourd'hui 1 hectare de plancher. Donc, c'est pas, on n'est plus dans la petite cabane de Nansouty et de Vossena. Et puis, le temps a passé. L'astro est arrivé. C'est un siècle et demi d'histoire scientifique avec l'invention du chronographe par Bernard Liot en 1930 sur le Pic, des coupoles, la première coupole c'était 1908, c'était la coupole Bernard Liot qu'on appelle aujourd'hui, mais on voit ces photos où ils étaient à l'intérieur, le froid, dans des conditions très difficiles, et puis surtout ne pas oublier en parallèle que si on avait des scientifiques qui passaient l'hiver là-haut, enfin qui passaient toute l'année là-haut même, on avait aussi des porteurs, parce qu'il y avait une communauté scientifique qui en vivait, mais il y avait aussi notre communauté locale, hein, qui permettait la vie sur ce site. Donc il y avait effectivement les mules l'été, mais l'hiver c'était à dos d'homme qui montait les victuailles et de quoi se chauffer. Donc au fur et à mesure que les années sont passées, il y a eu des évolutions, hein, mais très lointaines, c'est-à-dire que avant 69, l'alunissage d'Apollo, il y a eu un travail avec la NASA sur la cartographie de la Lune, il y a eu des découvertes quand même sur les rayons cosmiques qui sont liés au Pic, et puis surtout, quand on parle aujourd'hui de réchauffement climatique, depuis 1852, on a tous les relevés de température au Pic au quotidien, c'est-à-dire qu'on a quand même un suivi et une accélération malheureusement du réchauffement ces dernières années. Sur l'ozone, toutes les premières mesures d'ozone dans le monde ont été prises également au Pic du Midi. Donc on a quand même un site qui a marqué l'histoire, de l'histoire scientifique, et puis cette histoire humaine en parallèle. Après, ça a été 1930, la route, hein, la route entre le col du Tourmalet et l'accès au Pic, avec un projet, on est à Lourdes, mais le projet initial, c'était 1902 ou 1910, où on devait construire un tramway qui reliait Lourdes au Pic du Midi. Le tramway, il est quand même...
voilà, on a raté ça.
Le tramway,
il est quand même arrivé à Artigues, hein, le tramway, il faut être clair, hein, il est arrivé au pied de la Mongie. Bon, après, il y a eu un accident, il n'a pas été malheureusement reconstruit, c'était le pont des Boulangers, il n'a pas été reconstruit. Mais on a cette route, hein, entre le col du Tourmalet et le pied du Pic, qui date de 1930, l'hôtellerie des Laquais, dont on reparlera tout à l'heure, qui a été construite en 1933. Et tout ça, on avait déjà des camps de base du Pic, quoi. Et le Pic s'est construit petit à petit avec... tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Il s'est construit sur de l'audace, mais aussi à un moment il a fallu défendre le Pic qui était mis en danger avec en 95 le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui annonce la fermeture du Pic. Ouais, et là, qu'est-ce qui se passe?
Et c'était pas la première fois.
Et c'était pas, ah oui,
et alors, c'était, on a eu
donc il a été menacé.
Il a été menacé à diverses reprises, et c'est pour ça qu'on parlera peut-être d'UNESCO après, parce que c'est on recherche un sauvetage pour l'humanité de ce site emblématique et merveilleux. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'État n'avait pas entretenu. On est en 95 et ils ont décidé qu'ils n'auraient pas les moyens d'investir sur la rénovation. Et en plus, ils étaient dans les années où ils commençaient à construire ces grands télescopes. C'était le Chili, c'était Hawaï. Donc, ils se sont dit, quoi qu'il arrive, notre plus grand télescope français, et qui avait été le télescope Bernard Liot, le plus grand européen, ils vont être désuets, donc on abandonne. Et heureusement qu'on a eu une mobilisation locale, hein, autour de François Fourtassin, qui était à l'époque président du conseil départemental, le préfet du Sourd, et malgré des convictions politiques opposées, puisque il y avait Marc Sancy à la région, ils ont réussi à monter un syndicat mixte où on retrouve 45% la région, 45% le département et 10% les petites collectivités autour du Pic, une mobilisation de nos élus, une mobilisation des populations locales et une mobilisation des scientifiques et un sauvetage. Un sauvetage.
Et aujourd'hui, finalement, on ne cesse d'investir au pic du Midi.
On n'a pas cessé d'investir parce que le sauvetage, ça a été 40 millions d'euros. Et c'était François Fortassin qui disait l'époque, si on nous avait, si on avait annoncé, on se doutait avec le préfet du Sourd qu'on irait bien plus loin que les sommes sur lesquelles on s'était engagé initialement, puisqu'on a plus que doublé le prix de la rénovation du PIC, mais c'était une nécessité, on le voit aujourd'hui. Et ils avaient quand même cette vision de dire, si on affiche un vrai prix, on ne fera pas. Donc c'est 40 millions d'euros d'investissement, et derrière... une exploitation difficile. Bon, on a émis un privé sur la première année, ça s'est mal passé, on a rompu le contrat. On est, nous, entreprise publique, hein, puisqu'on dépend du syndicat mixte, on est une régie directe d'un syndicat mixte, du même syndicat mixte qui a participé au sauvetage. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'en 20 ans, nous, on a réussi à faire de ce site un site à forte notoriété touristique, ouverte au grand public sur des bases dont on a parlé tout à l'heure. On a des comptes pour une entreprise publique qui sont équilibrés. On sort de l'excédent, mais je dirais que l'équilibre est notre objectif, et c'est le cas. C'est pas quand même le cas de toutes les entreprises publiques, il faut être clair. Et dans le même temps, ce qui est fabuleux, c'est que l'université Paul Sabatier, qui est le propriétaire, avec l'Observatoire Midi-Pyrénées, ont développé la science. Ils sont sur des programmes, là, sur le télescope Bernard Lyot, sur des programmes de niveau international. Ils ont réorganisé le coronographe avec un nouvel appareil, une nouvelle installation. C'est le plus gros coronographe terrestre au monde, qu'on trouve aujourd'hui sur le pic depuis quelques mois. Et puis ils ont construit 30 logements pour former les étudiants en astrophysique, les masters, et pour également faire des stages. Là, ils sont en train de former les professeurs d'école pour qu'ils puissent travailler avec les élèves. Le conseil départemental avait aussi, sur la partie visite, pris une décision de monter au moins une fois dans le secondaire, que tous les élèves passés dans le secondaire sur les Hautes-Pyrénées montent au moins une fois au pic. Enfin, je veux dire, il y a quand même, en termes d'éducation et de formation, une grosse dynamique portée par l'université Paul Sabatier, et nous, ça nous ravit. Donc, je dirais qu'en 20 ans, on peut considérer que le pari de 2000 du sauvetage a abouti, quoi.
Il a réussi.
Oui, il a réussi, oui.
Donc, en matière d'investissement, vous allez encore plus loin, parce que vous dites on investit toujours, et c'est le projet de l'hôtellerie des Laquais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est pratiquement abouti, c'est une nécessité, c'est un besoin?
On parlera après peut-être du Tourmalet, parce qu'on a investi l'an dernier, on a terminé...
Alors faisons vite, car le temps passe.
On a terminé on a construit la maison du Tourmalet au Tourmalet, mais bon, oui. On va parler des Laquais. Les Laquais, ça fait partie de la zone cœur de notre site, c'est-à-dire c'était un camp de base, c'est un hôtel, un chalet-refuge, plutôt qu'un hôtel. C'était ouvert avec des accès routes par voiture, donc on a effectivement coupé totalement la route au Tourmalet. Il n'y a que les bergers qui peuvent monter, et nous, pour la maintenance sur ce chemin de montagne. Et ensuite, on a énormément de randonneurs l'été, et c'était une hôtellerie qui commençait vraiment à se dégrader, et on s'est dit que dans la démarche UNESCO, et puis même pour le PIC, on voulait créer un produit bien particulier, donc on est parti sur un chalet-refuge haut de gamme, où on va rénover et agrandir quelque peu pour créer 16 chambres, avec un restaurant, un lobby-bar, et sur le côté, sur l'extérieur, enfin, qui donne sur l'extérieur, dans la cuisine du restaurant, on aura également un petit snacking, de façon à ce que les randonneurs l'été puissent s'arrêter déjà pour se restaurer et boire. C'est ce qu'ils nous reprochent quand ils montent au pic, parce qu'il faut qu'ils payent l'entrée sur la partie accès, sommital. Et en plus, on aura surtout des WC publics, parce que je pense qu'on a plutôt affaire à des randonneurs qu'à des promeneurs, mais il y a énormément de monde sur cet accès-là. Et pour monter un véritable modèle économique sur l'exploitation de ces laquais qui nous donneront à nous, exploitants du site, plus les laquais, plus le Tourmalet, une bouffée d'oxygène, c'est-à-dire qu'on construit un petit ascenseur, un petit téléphérique, entre les laquais et le pic, une petite cabine, va ou vient, de 15 places, qui nous permettra d'être ouvert toute l'année, sur les mêmes dates qu'au pic, et en espérant qu'on aura le même taux de remplissage que nos chambres qu'on trouve sur le pic, puisqu'on a quand même 15 chambres, on a 27 personnes tous les soirs, et on est en train de terminer de remplir 2025. Quoi.
Donc, c'est bien parti.
Il y a vraiment, ça bouillonne d'idées, d'initiatives, ce pic du midi qui se dit en superlatif. C'est vrai que tous les chiffres sont grands, il faut aller chercher une reconnaissance, l'UNESCO, oui, ça c'est un superlatif qui va bien au pic du midi. Vous êtes candidat au classement du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. Vous avez entamé, on imagine, un long processus de défense de dossier. Comment vous le vivez et pourquoi aller chercher cette reconnaissance mondiale?
On a commencé en 2012. C'est déjà vieux. Hein. En 2012, on est monté, avec François Fortassin et une collègue, on est monté au ministère de l'Environnement. Il y avait un président des sites classés à l'UNESCO, M. Doge, qui était un sénateur, qui était un copain à François Fortassin, qui a dit « Mais t'as un truc fabuleux ». Donc on est monté, on a été présenté le PIC, on a dit « Vous pensez que est-ce qu'on aurait une chance ?» Et puis ils ont dit « Oui, il faut chercher une valeur universelle exceptionnelle, puisqu'il y a des critères à respecter ». Et de là, on a commencé à recruter, à prendre un intervenant extérieur, qui MCC Héritage, Michel Cotte, qui travaille avec nous depuis, pour voir sur quel VUE on pouvait aller travailler. On a organisé notre premier comité de pilotage en 2014, avec une cinquantaine d'élus, et on a dit voilà, on a une stratégie, on vous la présente, et on voulait partir sur les observatoires de montagne, sur une série avec le Chili, Hawaï, et on voulait embarquer les Américains, mais qui n'étaient plus trop UNESCO, et puis surtout on avait aussi les Canaries. Et puis en définitive, ils se sont retrouvés, mais là on était plutôt côté scientifique, notre directeur scientifique, Rémi Cabanac, s'est retrouvé avec Michel Cotte à Hawaï. Et là on s'est rendu compte qu'on ne partageait pas du tout les mêmes visions, c'est-à-dire que sur les observatoires du Chili ou autres, ils sont prêts à tout redémolir pour tout reconstruire encore plus gros ou plus petit, ou construire d'autres appareils de recherche. Et nous, à l'inverse, on a quand même du bâti qui a une histoire, une communauté scientifique, une communauté locale, et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille seul peut-être. Alors en France c'était compliqué parce qu'on est nombreux à vouloir entrer à l'UNESCO, hein, et puis à l'époque c'était deux candidatures par an qui étaient présentées par l'État français, et donc on s'est mis à travailler, et on a si bien travaillé que le 22 octobre, au mois d'octobre 2022 plutôt, on est rentré sur la liste indicative de l'État français. Ah oui, donc on fait partie aujourd'hui des 36 sites qui seront présentés, qui peuvent être présentés par l'État français à l'UNESCO, donc c'est un par an. Mais on n'arrive pas obligatoirement le 36e et le dernier, parce que certains sont inscrits sur la liste et n'ont pas retravaillé depuis, parce qu'ils se sont rendus compte peut-être que leur VUE ou politiquement leur démarche s'est arrêtée. Et nous, on est en pleine dynamique. Suite à cela, on nous avait préconisé de mener une étude architecturale, une étude paysagère. L'université Paul Sabatier, avec sa nouvelle présidente, s'est vraiment positionnée pour être à nos côtés. Donc on est syndicat mixte et université Paul Sabatier sur cette démarche-là. On a la première audition le 18 avril prochain.
Vous êtes prêts ?
Et on sera prêts.
Vous serez prêts ?
On sera prêts. Et on aura deux autres auditions. Il y a trois auditions. Et à partir du moment où on aura passé la dernière et que tout se présentera positivement, on pourra à ce moment-là être présenté par l'État français à l'UNESCO. Donc on espère 2027, 2028. Voilà.
On imagine bien qu'un amoureux du PIC, Emmanuel Macron, vous aidera certainement dans cette candidature. Lui qui est originaire de cette belle région de Bagnères de Bigorre.
Il faut le dire parce que c'est lui quand même qui nous a relancé après le Covid, parce qu'il nous a demandé où on en était par l'intermédiaire du préfet, de région de l'époque, en 2019 et 2020. Et c'est vrai que sur les terrasses du PIC, quand on a inauguré la refonte des espaces de visite, c'est lui-même qui a dit qu'il ne voyait pas pourquoi les volcans d'Auvergne seraient classés au patrimoine mondial et qu'on n'aurait pas le Pic du Midi et ses Pyrénées.
Quand on prépare un dossier pour l'UNESCO, il faut répondre à cette question. Qu'est-ce qui manquerait serait au monde si le pic du Midi n'existait plus?
Ben, c'est-à-dire qu'il faut, il faut plutôt... Ah oui, dans ce sens-là, oui. Et
c'est, alors, et mais c'est une question que je vous pose.
Et c'est plutôt à l'inverse, c'est amener un site qui n'est pas représenté dans le patrimoine mondial aujourd'hui. Quelle est notre différence par rapport au site actuel? Et on a une différence énorme, c'est qu'on a un lieu scientifique de montagne, on est le plus vieil observatoire de montagne au monde, et surtout en activité, quoi.
C'est le week-end.
Oui.
Vraiment.
Je voulais juste rajouter qu'on peut dormir au Pic du Midi puisque c'est le week-end, mais je pense que c'est un petit peu, comme on dit, booké depuis quelques temps.
Ah ben oui, si vous avez prévu d'y aller pour demain soir, il reste la place.
Non, il faut monter plutôt en journée parce que malheureusement, effectivement, il ne reste plus de place et on a, ce que je disais tout à l'heure, on est en train de finir de remplir 2025, donc il est temps qu'on ouvre les laquais, on est en pleine instruction de permis de construire et on espère concrètement pouvoir attaquer les travaux cet été.
Bon, même si les chanceux de ce week-end, on pense à eux qui passeront la nuit au Pic du Midi. En tout cas, le Pic du Midi, c'est ouvert tous les jours. On a envie de venir, comment on fait? On prend notre voiture, on va jusqu'à Bagnères?
On prend la voiture ou on prend les bus. On a quand même des bus qui relient de Lourdes ou de Tarbes à la Mongie régulièrement. Plus de la... Si vous êtes sur Bagnères, il y a la communauté des communes qui a mis aussi pendant l'hiver du skibus, donc des navettes. Ensuite, les voitures, vous garez à la Mongie, premier tronçon de téléphérique. Vous allez sur picdumidi.com, vous réservez en ligne, vous avez même l'horaire et la date. Et derrière, vous allez participer, ou vivre un voyage unique et exceptionnel sur notre vaisseau des étoiles.
Wow, magnifique proposition. Peut-être un conseil, on y vient avec son bonnet, ses gants en ce moment.
Hier, il faisait moins 10 sur les terrasses.
Faisait moins 10.
Donc, même s'il fait soleil, dès qu'on va sur le côté nord, on comprend quand même qu'on est à 3000.
Bon, magnifique. Voilà cette belle promesse. J'espère
tout
que ça vous
fait,
a
sans
séduit.
Oublier les concerts, souvent dans l'année. Et j'ai même vécu un Tarbes en tango.
Oui,
un soir.
Tout à fait.
Il
ouais.
Y a plein de choses, plein d'activités. Bon, on aura peut-être une autre occasion.
Mais oui, venez encore dans l'heure de point nous donner des nouvelles,
le
nous
plus
parler
plaisir,
de
David.
Cette saison culturelle aussi qui se prépare au Pic du Midi, picdumidi.com. Merci beaucoup, Daniel Soukaz.
Merci beaucoup à Radio Présence.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis Delphine, on se retrouve la prochaine fois.
Voilà, on va faire un petit coucou à Anne, espérant qu'elle soit là la prochaine fois.
Anne, c'est notre chroniqueuse, Anne Deslois, qui est bénévole engagée dans la Solidarité internationale, on t'attend, ta place de chroniqueuse est bien là. À très bientôt et puis à la prochaine fois.
Et bon week-end.
Merci.
Bon week-end à vous, merci.
L'heure de pointe, David Torchala.